J'ai plein de papiers, j'ai pas besoin de tous. Allez, je vous propose de démarrer par une lecture de l'Écriture. Colossiens, au chapitre 3. Voilà, je vais poursuivre tout le travail, la réflexion entamée il y a déjà quelques mois sur aller à la rencontre de Dieu sur la montagne. Voilà, bon, en même temps, c'est vrai qu'on a le choix de partage de l'Écriture, mais voilà, tout ce thème en ce moment me semble important. Comment pouvoir avoir accès à cette présence de Dieu sans être tellement pris par l'émotion qu'on se dit comment entrer en relation avec Dieu. Colossiens, chapitre 3, les quatre premiers versets. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voulez une bonne nouvelle ? Le texte dit « car vous êtes mort ». Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Une fois, il m'arrivait, je ne sais plus, voilà, en bavardant avec quelqu'un qui partageait nos soucis. Et puis, je disais, heureusement, on est mort. La vie ancienne est morte. Le vieux Michel est mort, même si parfois il essaye de remonter à la surface, avoir la liberté, l'autorité de lui dire « non, t'es sous l'eau, au baptême t'es resté sous l'eau ». Si vous êtes ressuscité avec Christ, on verra tout à l'heure, hein, c'est tout le langage de la résurrection, de se réveiller, d'être debout, d'être droit, d'être... Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Comment est-ce que cela peut se faire? Alors, c'est pour ça que depuis quelques semaines, voilà, je repartage avec vous toutes ces rencontres en face à face avec Dieu sur la montagne, les montagnes. Pourquoi? Parce que tous les grands hommes de Dieu, pratiquement, ont vécu des temps de rencontre symbolisés par le fait de monter, d'aller plus haut, viens ici, monte ici. On a vu qu'il y avait des psaumes, venez, montons à la montagne de Dieu. Vous pouvez aller sur le Ménézon, 333 mètres. Mais c'est spirituellement, voilà, qu'il faut laisser l'Esprit Saint monter en nous, laisser la parole de Dieu, l'Écriture monter en nous dans notre esprit et nous réjouir en Dieu. On a vu qu'en esprit, nous avons une montagne auprès de nous, c'est le Christ, montagne messianique. De cette montagne, ce rocher va venir et va bouleverser les nations. Et quand Jésus va revenir, il va revenir sur le monde et Olivier qui va se séparer en deux, il va y avoir plein de choses extraordinaires et il va reprendre la main, l'autorité sur les nations. On a vu que rencontrer Dieu sur la montagne en face à face, c'est aussi un symbole, réunir deux parties, faire alliance. Et on a vu que le contraire du symbole, c'est diabolo, c'est le diable, c'est ce qui sépare, ce qui divise, ce qui met la zizanie. Le rapprochement de deux réalités, visibles et invisibles, dans notre vie intérieure. On a vu qu'Abraham est allé à la montagne de Morija. Dieu a pourvu. Dieu lui demandait le sacrifice suprême. voilà, de lui remettre son fils, son unique. Et Dieu a pourvu au remplacement. On a vu Moïse qui a eu cette révélation au mont Horeb, un lieu aride. Dans sa sécheresse, dans son manque de relation avec Dieu, il a eu cette révélation du Dieu qui est « Je suis ». On a vu qu'il a amené Israël au mont Sinaï. Le mont Sinaï qui veut dire les falaises d'argile. Tu as rencontré ce peuple, l'a emmené plus loin, lui a donné des instructions, les 10 lois. J'aimerais voir avec vous ce matin, alors dans les, pour moi, 2 grands hommes de Dieu, qui ont rencontré Dieu sur la montagne, il y avait Moïse et il y a Élie. Si vous vous rappelez, lors de la transfiguration, qui était auprès de Jésus, Moïse et Élie. Et ces 2 hommes ont vécu des révélations extraordinaires sur la montagne de Dieu. On peut prendre ensemble dans le premier livre des rois, un roi, chapitre 18. Tout le monde connaît l'histoire, mais on va quand même la relire. 1 Roi 18. Les versets 19 à 24. Élie a des soucis avec le roi Achab. Dans le pays, il y a beaucoup d'idolâtrie. Achab essaye de supprimer Élie et il a de la peine. Et puis arrive un jour où il y a une grande confrontation entre ce prophète, ce serviteur de Dieu, et tous les prophètes du roi, tous les prophètes de Baal. 1 Roi 18-19, « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. » Et aussi les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Jézabel, c'est la femme du roi Achab. Elle n'est pas forcément bien intentionnée envers tout ce qui est spirituel, tout ce qui vient de Dieu. Et elle aimerait bien attraper Élie et le mettre de côté. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla tous les prophètes à la montagne du Carmel. Carmel, ça veut dire vignoble de Dieu, lieu fertile. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a ici 450 prophètes de Baal, plus 2 d'Astarté, si on sait compter. 450 et 400, ça fait 850 prophètes idolâtres contre un seul serviteur de Dieu. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois, je mettrai le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Confrontation au sommet sur le Carmel. Il y a dans nos vies des temps de confrontation, des temps d'opposition, quand notre vie terrestre, notre chair a d'autres désirs que ceux de l'esprit, il y a des tensions. Pratiquement tout le monde connaît ces tensions. Et il y a des moments où il faut prendre position. Et malgré les risques, à Cap, chez sa belle, le roi, la reine, qui va l'attraper, le mettre de côté. Et lui dit, c'est maintenant le moment de la confrontation. Si je ne le fais pas maintenant, quelque chose de pourri va se développer en Israël. Le feu de l'idolâtrie. Et Élie se dit, mais comment je vais arrêter ça? Et il dit, bah, je prends des risques. Je vais au Carmel. 8 ans, j'étais en Israël avec Jean-Marc Tobor. On est allé au Carmel. Aujourd'hui, il y a depuis 2008, une statue de Élie avec un glaive. Et puis, c'est marqué. C'est une petite montagne, hein, je crois qu'elle fait, j'ai noté, elle fait 546 mètres. Oh, c'est une colline. C'est un peu plus haut que le Ménézoom. 546 mètres. Bon, c'est pas le Mont Blanc. C'est facile d'y arriver. C'est une colline, une petite montagne. S'il n'y a pas trop de brume, on peut voir la mer, on peut voir, c'est une vallée très très riche. Ça domine une vallée qui sera importante, qui a été importante, mais qui le sera encore dans les années de la fin, la vallée de Jizréel. Il y a eu des combats, c'est un lieu où les armées venues d'Égypte et les armées venues de Syrie et plus haut s'opposaient. Il est dit que voilà, un jour il y aura à nouveau une bataille finale dans ce lieu, et le mont Carmel est au-dessus de ce lieu. Et c'est là où Élie a confronté ses 850 prophètes de Baal. Il prend des risques. Voilà, il dit, faites des sacrifices de votre côté, et puis moi, eh bien, je vais faire les miens. On poursuit avec les versets 36 à 40. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. L'autorité d'Élie lui vient de la parole de Dieu, une parole vivante qu'il a reçue, qu'il va proclamer. Entre deux, vous connaissez peut-être cette scène où Élie se moque des prophètes de Baal et leur dit « Ah, criez plus fort !» Il est peut-être aux toilettes. C'est dans le texte, hein, je n'invente pas. Il est peut-être aux toilettes. Baal, ça veut dire maître. Le maître est aux toilettes, il n'a pas le temps de s'occuper de vous. Pourtant, à 850, ça devait faire du bruit. Comme beaucoup de prêtres, dans tout ce qui est idolâtre, ils ont fait des scarification, ils ont crié jusqu'à l'heure de midi. Toute la matinée, ils ont hurlé, ils ont braillé, puis Élie s'est bien marré. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur. Le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Je vous laisse imaginer la suite. La victoire a été totale. Élie avait 100% confiance en Dieu, au point de verser plein de seaux d'eau sur les sacrifices, sur l'autel, sur le bois, je ne sais pas combien de seaux d'eau, il y avait de l'eau partout. Il a noyé le sacrifice, noyé l'Holocauste. Et malgré tout ça, le feu du ciel est venu. dans nos vies, quand nous sommes confrontés à l'ennemi, cela arrive. Cela arrivera encore, sans doute. Voilà, pouvoir dire à l'ennemi, voilà, Satan, que le Christ, que Jésus, que l'Éternel te réprime. Sur ta parole, Seigneur, voilà. Fais éloigner de moi. Ne m'induis pas en tentation, ne me laisse pas entrer en tentation. Délivre-moi du mal. Je pense que ça a été la prière d'Élie. Ne laisse pas ce peuple entrer en tentation d'idolâtrie. Délivre-nous du mal. C'était une constante de tous les hommes de Dieu. Dans la vie de Moïse, quand il a reçu les 10 tables ou les 10 paroles, les 2 tables, les 10 paroles, quand il est redescendu et qu'il a vu l'idolâtrie, il a cassé les tables et puis il a dit à Dieu, on supprime tout. Et puis Dieu dit, non, on va essayer de réparer les choses. Élie est entré dans l'intercession pour le peuple. Et il a fait barrage. Et il a osé se présenter devant tous ses prophètes. Ça a bien énervé le roi et surtout la reine Jézabel. Et après cette grande victoire, il a eu un coup de mou, Élie. Un roi 19, verset 3, ou verset 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Jézabel n'est pas très bien intentionnée. L'ennemi non plus. S'il peut nous faire un croche-patte, s'il peut nous mettre un coup de poing au plexus, s'il peut embarrasser notre vie. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Élie va s'isoler et traverser un moment difficile. Il peut arriver qu'après des temps de victoire, il y ait des temps... c'est moins bien. Après un temps bien rempli, bien un temps de creux. En voyant cela, Élie se leva et s'en alla pour sauver sa vie, sauver sa peau. Parce que Jézabel a dit, si je t'attrape, je t'égorge comme les autres. Peut rencontrer dans nos vies des temps où voilà, l'ennemi, quelqu'un, voilà, dans notre entourage, dans notre vie professionnelle, pour X raisons. Ça m'est arrivé avec un technicien qui était responsable de moi d'être un petit peu malmené. Et puis un soir, je me rappelle, 6 heures dans ma cuisine, tout d'un coup, je me suis dit, je vais chavirer. Pression maximale. Pendant 10 années, tous les jours, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, quand est-ce que tu fais ci, quand est-ce que tu fais ça. Voilà. Quelqu'un qui avait une autre spiritualité que la mienne, puis bon, sans qu'on soit ennemi acharné, mais en tous les cas, il y avait... Voilà, puis là, un soir, j'ai vraiment vécu cette pique de la nuit, puis en me disant, je chavire. Voilà, Seigneur, il y a quelque chose qu'il faut redresser là maintenant, sinon je déprime. Et de crier à Dieu, voilà, il y a quelque chose. Le Seigneur nous aime, il nous vient en aide et il nous remet debout. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous vous rappelez Colossiens 3, car vous êtes Mort. Ah. Ah ben Élie s'est dit, ça y est, c'est la fin, plus vite ça arrivera. Il s'assit sous un genêt, demanda à la mort en disant, c'est assez, maintenant éternel, prends mon âme. Même si j'ai vécu une victoire spirituelle, je ne suis pas mieux que mes frères et sœurs d'Israël. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. C'est déjà pas mal, il a réussi à dormir. Voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit, sur des pierres chauffées une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Oui, Dieu a de l'empathie. Il lui a envoyé un ange qui lui tient un petit casse-croûte. Et puis, une petite sieste. Et ça va le faire. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » On a besoin d'aide dans nos vies, que ce soit l'aide d'un frère, d'une sœur, du service des ministères, voilà, trouver de l'aide. Rappelez-vous, Jésus au désert, l'ange lui dit, voilà, je pourrais avoir des milliers d'aides. Et non, il renonce, mais là, voilà, il y a un ange qui vient donner un coup de main. Ce sont des messagers au service de Dieu pour les saints. Et il a été aidé. 1 Roi 19, verset 8, il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ce qu'il a reçu à manger a duré longtemps. 40 jours, 40 nuits, c'est symbolique là aussi bien sûr, mais il s'est mis à part. Jésus va revivre dans sa chair tout ce parcours de ses prophètes. Jésus va aussi aller au désert, 40 jours lutter contre l'ennemi, se bagarrer avec lui. Là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Après un temps de victoire spirituelle, après un temps de déprime, où tout est moins bien, pouvoir écouter cette petite voix de Dieu, « Qu'est-ce que tu fais ici, Michel ?» Alors, je ne vais pas mettre tous les prénoms, je pourrais. Hein. Juliette, Fanny, Rémi, Hervé, Nicole, qu'est-ce que tu fais ici ? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'esprit tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Kleenex n'avait pas été inventé encore à l'époque. Je ne sais pas s'il y avait un mouchoir, mais... Voilà, il pleure devant Dieu. Voilà. Moi. Pauvre de moi. L'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. On n'a pas de nom de la montagne. Mais à nouveau, on retrouve une montagne. Il est invité à aller plus haut. À aller plus loin, à avancer, à monter. L'Éternel dit, sors, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Voici, l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Parfois, dans nos moments difficiles, on dit, Seigneur, réponds-moi de telle manière. Je veux que tu me dises ça. Je veux, voilà, dimanche, je veux qu'il y ait une parole pour moi pendant le culte. On attend un coup de trompette. On entend du bruit, on entend de l'agitation. Après le tremblement de terre en feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. L'écoute est différente. Je pense que le vent, la tempête, le tremblement de terre, le feu, c'est quelque chose qui réveille, qui secoue, mais on n'est peut-être pas encore dans l'écoute. Après le feu, un murmure doux et léger. Est-ce que nous prenons le temps, est-ce que nous développons cette capacité de cette écoute de Dieu douce et légère? Une femme qui a écrit un très beau livre de prière, hein, La prière d'écoute. C'est Lynn Penn, je sais que c'est un des livres de chevet de Francine. La prière d'écoute. Pouvoir faire silence en soi-même pour pouvoir entendre le murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, il se tint à l'entrée de la caverne. Une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Deuxième fois où tu veux dire, mais t'es où? Dans quel état tu es? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Michel? Élie, grande victoire, grande déprime. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Kinex. Seigneur, si tu savais, la vie est dure, mon pasteur, les anciens, l'église. Moi seul. C'est moi le champion. C'est moi le champion spirituel. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, dont la bouche ne l'a point embrassé, baisé. » Il y avait encore 7000 serviteurs de Dieu autour d'Élie. Dieu lui dit, ouvre tes yeux. Tu n'es pas tout seul comme champion, il y en a d'autres. Et dans son abattement, Dieu lui donne une nouvelle mission. Excusez du peu, il va aller emmener l'onction royale à deux rois. Hier, il y en a eu une avec tout le faste pour Charles III. Je pense que là, ça a été plus simple. Tu oindras deux rois et tu vas oindre Élisée, celui qui va te remplacer. Parce qu'après toutes ces victoires, un petit temps de repos. Qu'est-ce que tu fais, Élie? T'es où? Dans quel état tu es? Est-ce que tu as encore envie de me servir? Est-ce que tu as encore envie d'accepter une mission? Est-ce que tu es prêt à avancer pour moi? À sortir de la grotte et à écouter? Parfois, on se réfugie en soi-même. Et puis on se dit, Seigneur, du feu, du tremblement de terre, mais fais quelque chose. Et puis Dieu dit, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Va, apporte ma parole, fais-y, va voir un tel, sois disposé à m'écouter. On a eu une belle parole ce matin sur l'approche de l'écriture, cette parole qui tombe et qu'il faut apprendre à lire, à connaître. Une nouvelle restauration, nouvel appel, nouvelle mission. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verticalité. Élie, tu es, sors de ta grotte et puis mets-toi en route, tiens-toi droit, debout. L'Esprit entra en moi et je me tins debout. L'expérience des prophètes, elle nous est accessible aujourd'hui. Tout ce qu'ont vécu, toutes les expériences qu'ont vécu les hommes de Dieu sont un héritage pour nous. Et chacun pour sa part, chacun dans ses capacités d'expérience, veut dire, voilà, Seigneur, viens. Viens me parler, viens, fais-moi entendre ce souffle doux et léger. Christ est à la droite de Dieu, il est debout. Être au sommet, aller au sommet de la montagne. On dit ça, être au sommet de sa forme, au sommet de la société, dirigeant, PDG. Nous avons un privilège, c'est de pouvoir monter en Christ. D'être représenté à la droite du Père par Christ. Ça vaut un ticket d'entrée dans toutes les royautés du monde, dans toutes les présidences du monde. Nous avons accès à celui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Jean disait à Nicodème, si un homme ne naît d'en haut, avoir envie d'en haut, quelle est notre envie d'en haut? Notre envie de rencontre au sommet, notre envie d'aller sur la montagne. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Dans nos Bible, c'est traduit de naître de nouveau. Mais le mot grec, c'est naître d'en haut. C'est-à-dire quelque chose qui n'était pas accessible et qui le devient. On lit dans Jean 3, les versets 12 à 16. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pouvoir écouter celui qui a été élevé sur la croix. Celui qui est ressuscité d'entre les morts. Celui qui est monté auprès du Père, qui est à la droite du Père. Celui qui envoie l'Esprit. Pouvoir confesser, confirmer, chacun pour notre part. Pouvoir dire, oui Seigneur, je crois. Je veux chercher les choses d'en haut. J'aimerais conclure avec voilà, un texte qui est la clé de base de ma vie. Voilà, il y avait une parole sur la parole tout à l'heure. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Pouvoir avoir envie de monter voilà, vers Dieu en Christ, avoir envie de monter sur cette montagne. Tous les grands hommes de Dieu, voilà, ont fait leur expérience en allant vers cette montagne. C'est un héritage, c'est une expérience. Voilà, à chacun de développer ce besoin et cette envie. Père Céleste, merci pour toutes ces expériences de montagne, celles où tu as pourvu, celles où dans nos déserts, tu nous amènes à cette montagne, celles où dans notre humanité, tu nous conduis sur une montagne, celles qui nous donnent aussi ces victoires spirituelles. Tu es aussi à nos côtés dans nos abattements, nos détresses. Merci de nous conduire à ce face-à-face avec toi en haut. Merci de mettre en nous cet appétit pour les choses d'en haut, les choses célestes. Aide-nous à les comprendre, à les recevoir, à les confesser. Amen. Amen, amen.